Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 3 de Post Boost, le leadership éthique bullshit aux tendances de fond. Ce podcast est propulsé par Seven. Merci encore pour ton soutien. Et cette semaine, je voulais dire merci à Bergie S. qui a écrit sur Apple Podcast « Hâte d'être à la semaine prochaine ». Pour moi, l'écoute se passera certainement dans ma voiture le mardi matin en allant au boulot, endroit où finalement je suis la plus tranquille. Curieuse de découvrir tes conseils et tes savoirs, longue vie à Post Boost. Alors Bergie, bonne écoute sur ton trajet en voiture demain matin. Si tu veux, tu peux toi aussi laisser ton avis via iTunes et des étoiles sur iTunes ou Spotify. Et ce sera peut-être toi que je vais citer dans le prochain épisode. Allez, on passe au sujet du jour, le leadership éthique, bullshit ou tendance de fond. J'ai la sensation que chaque année, le mot tendance, ça sonne un peu faux. Je ne sais pas si ce que je lis ou j'entends est vraiment quelque chose de nouveau ou si c'est juste un coup de com'. Et la question du management éthique en faisait partie. J'ai eu deux réactions. Ah, mais tiens, mais c'est chouette le management éthique. Mais c'est quoi au fait? Et je me suis donc penchée sur la question du leadership éthique il y a quelques mois. Je te propose aujourd'hui mon analyse et bien sûr mes conseils pratiques pour mettre en place des changements dans ta manière de manager. À chaque fois qu'un sujet pique ma curiosité, j'ai le même réflexe. Chercher des études de qualité sur le sujet, écouter ou visionner des conférences qui parlent du sujet en question. C'est parti. Les premiers à parler du leadership éthique et de la quête de sens, ce sont les collaborateurs. D'ailleurs, la dernière étude de Malakoff Humani sur les attentes des collaborateurs en 2022 confirme les trois points suivants. En tant que collaborateur, on souhaite être reconnu et récompensé pour son investissement. On souhaite être managé de manière plus participative et collaborative. Et on souhaite trouver du sens et s'épanouir dans son travail. Cette même étude a permis de voir quelles sont la vision des enjeux de la fonction RH par les RH. Et les résultats sont assez bluffants sur les enjeux RH en 2022, selon vous, les RH. Pour 70% d'entre vous, c'est veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs. Pour 67% d'entre vous, c'est accompagner les transformations de votre entreprise. Et pour 60% d'entre vous, c'est favoriser l'inclusion, l'équité et le management éthique. Et comme moi, tu dois sans doute te reconnaître aussi bien sur les attentes que sur les enjeux. Dans cet épisode, je te propose qu'on aborde plusieurs sujets. Le premier, c'est l'évolution du rapport au travail. Le deuxième, c'est la définition du leadership éthique qui m'a le plus parlé à moi et mes trois clés pour agir concrètement dans ton job. On commence par les évolutions du rapport au travail. Alors évidemment, la question de la quête de sens dans le travail et la vie pro en général n'a pas disparu depuis 2020. Ceux qui estimaient que c'était un effet ponctuel lié aux divers confinements se sont bien trompés. Au contraire, elle devient même un enjeu majeur pour choisir ou quitter une entreprise. Moi, la première, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que ce que je fais a du sens? Comment je peux aider les RH à mieux vivre leur job? Et il est clair aujourd'hui que les entreprises ne peuvent pas espérer conserver leurs collaborateurs ou augmenter la performance sans prendre en compte les valeurs, la qualité et l'éthique. Je vais te donner un chiffre, 100 milliards de dollars. C'est le coût estimé par le Bureau international du travail des pertes en performance liées à l'absentéisme, au turnover ou encore au stress au travail. 100 milliards de dollars. Avoue que ça fait un peu flipper. Toutes les études, les baromètres que je consulte donnent également les mêmes informations. On cherche tous du sens, on veut être reconnu et surtout managé de manière différente. Et on accorde toutes une importance clé à la diversité, à l'équité, à l'inclusion, mais aussi aux aspects environnementaux. Et on cherche des leaders éthiques et parfois même on souhaite soi-même devenir une leader éthique. J'ai visionné une conférence TEDx de Stéphanie Boulet, je l'ai trouvée hyper intéressante. Je vais bien entendu te mettre le lien dans les notes de l'épisode et je te conseille de prendre 10 minutes pour l'écouter car elle est particulièrement intéressante. Stéphanie est consultante en leadership éthique et auteure du livre « Oser dire non pour dire oui à la vie ». Et pour moi, elle a donné une définition très claire de l'éthique et d'un leader éthique. Être éthique, c'est avoir conscience des 6 besoins fondamentaux de l'être humain. La santé, la sécurité, l'équilibre et le bien-être. Le respect, l'inclusion sans l'exclusion et la réalisation. Et un leader éthique, c'est d'abord un leader responsable, qui prend conscience et assume ses choix. Alors, assumer ses choix, c'est face aux autres, bien sûr, mais aussi par rapport à soi. C'est aussi un leader qui est exemplaire, qui est donc logique et cohérent, mais qui n'est pas parfait, qui admet que tout ne peut pas être parfait pour ses équipes, mais aussi pour lui-même. Et c'est enfin un leader cohérent avec les valeurs et les croyances de l'entreprise. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans des expériences passées, de ne plus être en cohérence avec les valeurs et les croyances de l'entreprise. Moi, j'ai pris la décision de quitter cette entreprise parce que je n'étais vraiment plus OK avec ce que je vivais et ce qui n'était pas du tout ce qui était valorisé et communiqué en externe. Alors attention, je ne te conseille pas de quitter ton entreprise absolument. Mais après tout, si tu estimes que les planètes ne sont plus alignées et qu'il y aura bien trop de travail à aligner les valeurs de l'entreprise avec les tiennes, alors il est peut-être temps de commencer à regarder ailleurs. Donc, les 4 points clés d'une leader éthique, c'est avoir conscience de ses besoins, être responsable, être exemplaire et être cohérent. Toujours pareil, une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Alors, comment devenir une leader éthique ? La première étape, c'est vraiment de se centrer sur soi, c'est-à-dire prendre soin de soi et savoir toi-même te situer par rapport à tes 6 besoins fondamentaux. Après tout, quand on se pose 2 secondes la question, cela paraît évident. Mais bon, je te rassure, moi aussi, j'ai tendance à souvent m'oublier, mais j'ai trouvé un super outil, une sorte de boussole interne que j'utilise 3 fois par an. Ça s'appelle, ou en tout cas je l'ai appelé, la roue de mes besoins. Et en janvier, en juillet et en décembre, c'est toujours pareil. Je prends rendez-vous avec moi-même pour faire le point sur moi, ma vie et ma carrière. Cela me permet de savoir où j'en suis de la satisfaction de mes besoins à l'instant T, et je décide quels sont les besoins qui, pour moi, ne sont pas satisfaisants aujourd'hui. Et je fonctionne de manière très simple, une feuille et un crayon. Je dessine un cercle. Au centre, c'est la valeur 0, et sur le cercle, c'est la valeur 10. Je positionne ensuite les 6 besoins selon mon niveau actuel de satisfaction entre 0 et 10. À quel point je suis satisfaite en termes de santé, de sécurité, d'équilibre et de bien-être, de respect par rapport à moi ou le respect que je ressens de la part des autres, l'inclusion sans l'exclusion et la réalisation. Et très simplement, je regarde quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaisants pour moi aujourd'hui. Et je me questionne avec ma question fétiche du pourquoi ce n'est pas satisfaisant pour moi. Et je sélectionne ensuite le besoin prioritaire pour les 6 prochains mois et je me fixe un plan d'action sur ce besoin. Et 6 mois plus tard, je ressors ma roue et je compare. Génial si cela a fonctionné. Et si ça n'a pas marché, une nouvelle fois, je me questionne avec le pourquoi. Et souvent, je m'aperçois 6 mois plus tard que des besoins ont évolué, de manière positive, alors que je n'ai pas la sensation d'avoir mené des actions particulières dessus. Et c'est normal, car nous ne sommes pas les seuls à pouvoir satisfaire nos besoins. Notre entourage, familial, amical ou professionnel, joue aussi son rôle. Alors, je ne peux que te conseiller de le faire. D'ailleurs, ça tombe bien, on est en juillet. Et on sait toutes, en fait, que c'est important de faire le point sur soi, mais très souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas comment faire. Mais tu vois, ça peut être quelque chose de super simple. Une feuille, un crayon, une roue, 20 minutes, et tu prends ces 20 minutes juste pour toi. Je suis sûre que, comme moi, tu dois te mettre une pression de folie pour assurer dans ton job, avec tes équipes, dans ta famille et avec tes amis. Mais finalement, on se questionne assez peu sur nos propres besoins. Et ce dont je suis absolument convaincue, c'est qu'il est impossible d'être à l'écoute des besoins de ton équipe, par exemple, si toi, déjà, tu n'es pas à l'écoute de tes propres besoins. Et rappelle-toi, une leader éthique, c'est celle qui est exemplaire. Et pour être exemplaire avec tes équipes, tu dois commencer par toi. La deuxième étape, c'est développer sa puissance et savoir dire non. Moi, j'ai appris à dire non, tout simplement, parce que je me suis aperçue qu'à force de dire oui, alors qu'au fond de moi, je pensais non, ben finalement, c'était toujours à moi que je disais non. Je positionnais au second plan mes besoins par rapport aux besoins des autres. Alors, effectivement, souvent, on a du mal à dire non parce qu'on ne réfléchit pas au pourquoi du non. Tu verras au fur et à mesure de cet épisode que je suis addict à la question « pourquoi ?» tout simplement parce que c'est un excellent moyen de faire avancer ta réflexion. Alors, revenons à ce fameux non. Il est évident que si tu dis non sans expliquer le pourquoi, la réaction de ton interlocuteur, elle a de grands risques d'être négative. La discussion va être stérile et surtout, la mayonnaise risque vite de monter. Et toi, qui n'étais déjà pas vraiment à l'aise avec le fait de dire non, tu vas te sentir déstabilisé parce que tu n'as pas réfléchi à tes arguments précis qui expliquaient ton non. Alors, je vais prendre un exemple concret de ma vie personnelle. J'ai un fils de 5 ans et souvent, il veut faire des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Exemple, manger un gâteau juste avant le repas. Alors, je peux lui dire juste non. Et il va me répondre pourquoi. Je pourrais lui répondre parce que. Il ne va pas comprendre. Il va encore me demander mais pourquoi maman. Et moi, je vais lui répondre parce que. Et ça ne va jamais s'arrêter. Par contre, si je lui explique pourquoi c'est non, les choses seront différentes. Je vais donc plutôt lui dire non, pas maintenant, parce que nous allons bientôt manger et que tu auras quelque chose dans ton estomac. Mais si tu veux, après le repas, si tu as encore faim, tu pourras avoir un gâteau. Et là, qu'est-ce qu'il me répond ? Ok, maman. Alors, tu vas me dire, oui, mais là, c'est hyper simple. Elle parle avec son fils de 5 ans pour une histoire de gâteau avant le repas. Rien à voir avec ce que je vis dans mon entreprise, avec mes collaborateurs ou avec mon ou ma N+1. Mais si, en fait, c'est pareil en entreprise et cela peut être aussi simple que cela. Par exemple, mon boss m'a appelé ce matin. Il m'a demandé de retravailler sur une proposition pour un de nos prospects pour un deuxième rendez-vous qui est prévu demain. Alors l'urgence, elle est forte de son côté, car il a décidé qu'il voulait le doc mis à jour dans la matinée. Mais moi, dans mon agenda, j'ai dédié la matinée à l'enregistrement de cet épisode. Et je n'ai pas envie de lui dire oui. Je vais donc lui répondre non, mais je vais lui expliquer pourquoi. Je vais lui dire non, je ne peux pas travailler cette proposition ce matin, car je dois enregistrer mon dernier épisode. Je sais que notre rendez-vous est demain. Je te propose donc de travailler dessus en fin de matinée. Je te renvoie le document en début d'après-midi. Comme cela, si besoin, on aura le temps de faire des allers-retours et on sera prêt pour le rendez-vous de demain. Conclusion, j'ai conservé le créneau dédié à mon podcast. J'ai dit non, mais pas de manière brutale. J'ai expliqué mon besoin. J'ai décalé l'échéance à un moment plus acceptable avec mon emploi du temps à moi. Et en bonus, je lui ai donné la possibilité que l'on affine la présentation client avant le jour J. Mon boss a une réponse, il sait que je suis sur le dossier et que je vais lui faire un retour. Alors, dire non, c'est plus ou moins facile pour chacune d'entre nous, mais on peut s'entraîner. Et le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de réfléchir aux raisons de ton non et de les expliquer à ton interlocuteur. La troisième étape, c'est entraîner sa vision globale. Ça veut dire développer son discernement. Dit comme ça, ça paraît un peu lunaire. Et en fait, c'est tout simplement se dire ben, je vais changer de lunettes pour analyser une situation, un problème ou un projet de manière différente. Alors moi, j'ai mis en place une routine hyper simple. J'ai créé une note dans mon téléphone et tous les soirs, je note 3 éléments positifs de ma journée. Soit des éléments positifs liés à mon travail ou à ma vie tout court. D'abord, c'est un excellent moyen pour moi de repenser à ma journée en étant focus sur ce qui a été positif. On sait toutes les deux qu'on a plutôt tendance à se dire « Oh mince, aujourd'hui, j'avais dit que je ferais ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Et de manière assez peu régulière, on se dit « Bah tiens, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui ?» Donc ça, c'est hyper utile pour moi, d'abord, pour me rassurer, pour finir ma journée avec des éléments joyeux. Et puis, si des projets ou des actions ne se sont pas passés comme prévu, je les note et je me pose ma question fétiche. Pourquoi ce projet ou cette action n'a pas abouti ? Et surtout, je regarde la situation en fin de journée a posteriori, pas pile au moment où un truc négatif est arrivé. Sinon, je suis dans le chaud de l'émotion et on sait toutes les deux que réagir à chaud, c'est toujours mauvais. Donc, je liste les éléments qui n'ont pas fonctionné et je me pose des questions sur pourquoi je n'ai pas réussi à ou pourquoi ce projet n'a pas abouti aujourd'hui. Peut-être qu'il était nécessaire d'avoir plus de temps. Peut-être que je n'ai pas terminé, mais j'ai fait les étapes X ou Y et demain, je ferai l'étape Z. ou tout simplement, je n'avais pas envie, et ça, c'est OK aussi. Le deuxième niveau, c'est prendre soin de son corps. Et oui, ton corps ne ment jamais. Alors, comment faire ? Ben, à toi de voir. Moi, je ne laisse pas traîner un mal de dos, par exemple. C'est hop, ostéo direct. Mais quand il s'agit de soi, de la gestion de son stress, des points positifs, des points négatifs, on peut avoir des difficultés à trouver un moyen de se ressourcer. Et moi, je pratique depuis janvier des exercices de sophrologie. Alors sincèrement, j'étais loin d'être convaincue, mais j'y ai trouvé de vrais bénéfices. Alors il existe beaucoup d'applications gratuites, mais moi, j'ai fait une découverte qui a changé ma vie. J'ai rencontré Véronique Souchon. Donc Véronique, c'est une sophrologue coach. Donc, elle a créé une newsletter qui s'appelle « Comment ça pourrait être mieux ?» Et dans cette newsletter, elle va te donner plein de conseils, plein d'outils que tu peux mettre en place très facilement dans ta vie quotidienne. Alors, si tu ne connais pas encore Véronique, je t'invite à la suivre sur LinkedIn. Et puis, bien sûr, je te rajouterai aussi les infos sur sa newsletter dans les notes de cet épisode. Alors, que conclure par rapport au sujet du jour ? Le leadership éthique, c'est finalement juste une question de bon sens. Et les trois clés pour aller vers un leadership plus éthique, c'est d'abord être attentif à soi et à ses 6 besoins fondamentaux. Donc on l'a dit, c'est utiliser la roue des besoins 3 fois par an. Le deuxième, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça veut dire réfléchir aux raisons qui te font dire non et les exprimer auprès de ton interlocuteur. Et le troisième, c'est entraîner sa vision globale, c'est-à-dire changer de lunettes quand tu es face à une situation plutôt négative et essayer d'identifier qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Écoute, j'espère que cet épisode t'a permis d'en apprendre plus sur le leadership éthique. Tu as désormais de nouvelles clés pour avancer sereinement sur l'idée. Et pour aller plus loin, bien sûr, je te rajoute dans les notes de l'épisode toutes les ressources dont je t'ai parlé. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as fait une super post-boost avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est le meilleur moyen pour moi de faire connaître ce podcast. Tu peux aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si tu ne veux pas louper ta prochaine Post Boost, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute. Post Boost est disponible partout. À très vite!